Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatrième épisode d'Au cœur de l'Euro. Je suis votre hôte Vincent Gianjopi en direct de Leipzig. On est passé de 51 matchs à 15 après la phase de groupe et avec les huitièmes de finale qui viennent de prendre fin, il ne reste officiellement plus que 7 matchs à cet Euro 2024. Aujourd'hui, on va donc repasser sur les 8 matchs de huitièmes de finale qui ont été joués dans les derniers jours et on va finir avec de petites prévisions en vue des quarts de finale. C'est parti! On commence en force avec le match qui opposait la Suisse à l'Italie. C'est un match qui était joué au mythique Olympiastadion de Berlin et auquel j'ai eu la chance d'assister avec quelques amis. Eux, ils avaient réussi à obtenir des billets dans la section de la Suisse, alors que moi, j'étais dans la section des Italiens pour encourager les miens. Sans trop divulgacher l'information tout de suite sur le match, disons tout simplement que mes amis ont eu un peu plus de plaisir que moi niveau ambiance. D'abord, l'entraîneur italien Luciano Spalletti avait procédé à plusieurs changements dans son 11 partant. À l'attaque, Federico Chiesa et Gianluca Scamacca étaient de retour, eux qui avaient débuté sur le banc lors du match contre la Croatie. On retrouvait aussi sur l'aile gauche nul autre que Stéphane El-Sharaoui, un choix plutôt inattendu compte tenu qu'il n'avait pas encore foulé la pelouse de l'Euro jusqu'à présent. Au milieu, Jorginho et Lorenzo Pellegrini laissaient leur place à Brian Cristante et Nicolo Fagioli. Finalement, à la défense, la jeune révélation de l'Euro, Riccardo Calafiori, n'était pas éligible en raison d'une accumulation de cartons jaunes. C'était donc Gianluca Mancini qui prenait sa place. Le latéral gauche, Federico Di Marco, était pour sa part blessé. Il laissait donc son poste à Matteo Darmian. Tous ces changements à la formation donnaient vraiment l'impression que Spalletti n'avait toujours pas trouvé ses joueurs forts qui étaient des irremplaçables dans son 11 de départ, et ça, tout à l'inverse de la Suisse. Les hommes de Murat Yakin sont arrivés avec le couteau entre les dents, et il était évident dès les premières minutes de jeu que le billet en direction des quarts de finale leur appartenait. Cette Suisse-là est vraiment toute une équipe. D'abord, elle est menée par un Granit Xhaka qui a vécu une renaissance depuis la saison passée, où il était capitaine de cette équipe historique du Bayer Leverkusen qui a remporté la Ligue allemande sans perdre un seul match. À la défense, on a une charnière à trois extrêmement solide dans laquelle on retrouve entre autres un Manuel Akanji qui, au cours des deux dernières saisons avec Manchester City, s'est discrètement faufilé dans la discussion des meilleurs défenseurs au monde. Puis à l'attaque, on a de tout. On a des joueurs techniques comme Dan Endoy et Ruben Vargas et d'autres qui peuvent jouer en profondeur ou en pivot comme Brill Embolo. Déjà que la mine des partisans italiens était basse dès le début du match en voyant que la Suisse était tactiquement et techniquement supérieure, c'est devenu silence radio complet dans leur section lorsque le milieu Remo Freuler va ouvrir le score suite à une magnifique séquence de passes de la part de la Suisse. Je crois qu'autant les joueurs que les partisans italiens avaient hâte d'arriver à la mi-temps et de rentrer au vestiaire. Et là, pendant cette pause, on était quand même en droit de se dire « Bon, c'est l'Italie, c'est une équipe qui s'est déjà sortie de l'adversité plusieurs fois, Spalletti va faire les bons ajustements et on va avoir droit à un nouveau match en deuxième mi-temps. » Finalement, même pas 30 secondes de jeu en deuxième mi-temps, ben c'est Ruben Vargas qui enroule parfaitement sa frappe et qui va faire 2-0 pour la Suisse. Si le match n'était pas déjà plié après le premier but, il l'était définitivement maintenant. Le reste du match a été très bien géré par la Suisse et c'est sur ce score de 2-0 qu'il va finir. Il y aura donc un nouveau champion de l'Euro avec l'Italie qui n'aura pas été en mesure de défendre son titre. D'un point de vue personnel, je suis évidemment déçu, mais pas vraiment surpris. Cette équipe de l'Italie n'est vraiment pas la même que celle qui a remporté la compétition en 2021 et la Suisse a été franchement l'une des équipes les plus séduisantes de toute l'Euro. D'autant plus qu'elle se retrouve dans une partie du tableau final plutôt abordable, il ne faudrait pas trop se surprendre si son parcours ne se finissait pas encore de finale. À peine une heure après Suisse-Italie, on avait Allemagne-Danemark. Étant à Berlin, mes amis et moi sommes allés voir le match près de la fanzone et c'était franchement toute une expérience. L'Allemagne a été l'une des équipes les plus convaincantes de la compétition jusqu'à date, alors que le Danemark, qui s'était rendu en demi-finale au dernier Euro, a dû se contenter de 3 matchs nuls en phase de groupe pour se qualifier. Il y avait donc un favori assez clair dans cette confrontation. L'équipe hôtesse s'alignait avec un 11 assez similaire à celui qu'on avait vu lors des 3 matchs de groupe, à l'exception de 3 changements. On avait d'abord Nico Schlotterbeck qui prenait la place de Jonathan Tah, qui était suspendu pour ce match en défense centrale, alors que le latéral gauche Max Mittelstädt était remplacé par le plus offensif David Raum. Finalement, c'était l'ailier droit Leroy Sané qui prenait la place de Florian Wirtz sur le côté droit de l'attaque. Du côté du Danemark, on retrouvait également un 11 partant familier, mais qui regorgeait vraiment d'incertitudes. Entre autres, une défense extrêmement lente et une attaque qui n'a que très peu produit depuis le début de cet Euro. Après 5 minutes de jeu seulement, l'Allemagne croyait avoir ouvert le score grâce à une tête de Schlotterbeck sur corner, mais le but sera refusé pour faute sur la séquence. Plus de peur que de mal pour le Danemark, mais tout de même très inquiétant pour eux. En début de deuxième mi-temps, et plutôt à contre-courant, c'est le Danemark qui va s'inscrire à la marque, ou du moins c'est ce que l'on croyait. Le défenseur Joachim Andersen va reprendre un ballon bondissant dans la zone du gardien et va conclure. L'arbitrage vidéo va refuser le but pour hors-jeu, et à la reprise, on va voir que ça ne se joue qu'à quelques orteils. Finalement, à peine 2 minutes plus tard, c'est ce même Joachim Andersen qui va dévier un ballon du bras dans sa propre surface et qui va accorder un pénalty à l'Allemagne. C'est l'attaquant Kai Havertz qui ne ratera pas sa chance et va donner l'avance à son équipe. Après le but, le Danemark va sortir un peu de sa coquille et va pousser plus de gens vers l'attaque, ce qui va laisser sa défense assez vulnérable aux contre-attaques. La lente défense danoise sera surprise par un long dégagement de Schlotterbeck qui va trouver le jeune Jamal Musiala. Ce dernier va s'amener seul devant le but et va battre le gardien danois Kasper Schmeichel pour doubler l'avance de son équipe. Et c'est donc ainsi que le match va se terminer, 2-0 pour l'Allemagne. Malgré la victoire, on peut remarquer quelques petites zones de faiblesse chez cette Allemagne. D'abord, bien que Kai Havertz ait converti son penalty, il a manqué bon nombre de chances qui auraient pu soit donner l'avance à son équipe plus tôt, soit lui permettre de mettre le match à l'abri plus rapidement. Contre une opposition plus tranchante à l'attaque, c'est quelque chose qui pourrait définitivement revenir hanter l'Allemagne. Peut-être que faire débuter un Niklas Füllkrug à la place pourrait être une possibilité pour l'entraîneur Julian Nagelsmann en vue des quarts de finale. Aussi, si le milieu de terrain danois Thomas Delaney avait porté quelques tailles de souliers en moins, l'Allemagne se serait retrouvée à tirer de l'arrière pour un deuxième match consécutif. Elle devra donc faire attention à ce que cela ne devienne pas une habitude, parce que ça pardonne certainement pas toujours dans les matchs à élimination directe. Passons maintenant à la troisième confrontation de ces huitièmes de finale, Angleterre-Slovaquie. Similaire à ces trois matchs de phase de groupe, il s'agit d'un match qui, sur papier, aurait dû être une simple formalité pour les Anglais, mais il va sans dire qu'ils ont encore trouvé un moyen de se compliquer la vie. L'entraîneur Gareth Southgate a reconduit un 11 très similaire au match de groupe, à l'exception du jeune Kobbie Mainoo, 19 ans seulement, qui se glissait au milieu de terrain aux côtés de Declan Rice. On n'est pas vraiment rentré en profondeur sur cette sélection slovaque dans nos épisodes précédents, mais c'est une équipe qui était extrêmement intéressante. Au même titre que l'Autriche, en fait, elle a une identité qui est très bien définie, mais qui ne provient pas nécessairement de l'où on pourrait croire. En effet, leur sélectionneur, Francesco Calzona, est simultanément l'entraîneur de la sélection slovaque et du club italien Napoli. Leur entraîneur assistant, Marek Hamšík, est une légende vivante de ces deux institutions, lui qui a porté les couleurs du Napoli pour plus de 400 matchs et celle de la Slovaquie pour plus de 130 matchs. Finalement, le milieu de terrain et le cœur battant de cette sélection slovaque, Stanislav Lobotka, évolue pour, vous l'aurez deviné, le Napoli également. C'est donc une équipe qui produit un très beau foot marqué par de beaux circuits de passe et beaucoup d'agressivité avec et sans ballon. C'est d'ailleurs une stratégie qui va fonctionner à merveille face à l'Angleterre, elle qui va se faire prendre en contre-attaque à plusieurs reprises. Et à la 35e minute, l'impensable arriva. Superbe contre-attaque conclue par Ivan Schranz pour son troisième but du tournoi. Là, c'est la Slovaquie qui va prendre les devants. Mais sera-t-elle capable de tenir? À la 50e minute, Phil Foden de l'Angleterre croit avoir ramené tout le monde à égalité, mais il est hors-jeu sur la séquence. La pression anglaise ne va cesser d'augmenter, mais rien ne semble vouloir rentrer. Chance visiblement facile à convertir, poteau. Sérieusement, on croyait bien que le tournoi des Trois Lions allait se conclure en huitième de finale. Mais ça, c'est avant qu'un certain jeune homme de 21 ans, qui donnera une autre très bonne raison aux Anglais de chanter « Hey Jude, at tight » pendant toute la nuit, sorte le moment le plus iconique de toute la compétition. 95e minute de jeu, touche en zone adverse pour l'Angleterre, dévié de la tête par le défenseur Mark Guéhi et bicyclette renversée de Jude Bellingham, encore lui, et ça trouve le fond du filet. Après son incroyable saison au Real Madrid et franchement sa capacité à être ultra clutch au moment déterminant pour son club et son pays, Bellingham se positionne de plus en plus comme un réel prétendant au prochain Ballon d'Or. Et ce geste de classe mondiale qui vient de nous sortir en est un parfait exemple. Après que tout le monde ait repris ses esprits, on se dirige en prolongation et à ce moment-là, tout le monde semblait savoir qu'une seule équipe pouvait remporter ce match. Après une minute à peine dans cette prolongation, ben c'est le capitaine anglais Harry Kane qui sera au bon endroit au bon moment pour rediriger un ballon de la tête et donner l'avance aux trois Lions. La Slovaquie va tout de même pousser énormément lors du reste de la prolongation, mais les hommes de Southgate, aidés par le manque de réussite devant le but des Slovaques, vont tenir bon et l'emporter 2-1. Quatrième affrontement de ces huitièmes de finale, Espagne-Géorgie. C'est un match qui s'est déroulé pas mal comme on aurait pu le prévoir, c'est-à-dire énormément de possession de l'Espagne, la Géorgie qui défend du mieux qu'elle peut et qui essaie de frapper sur la contre-attaque. Sauf que ce qui n'était définitivement pas dans le script, ben c'est la Géorgie qui prend les devants à la 18e minute. C'est le piston droit, Otar Kakabadze, qui va voir son centre dévié dans son propre but par le défenseur français mais nationalisé espagnol Robin Lenormand. Premier but que l'Espagne accorde lors de cet Euro, on allait donc voir comment cette équipe allait réagir. Eh bien, elle a définitivement su garder son sang-froid et a égalisé à peine 20 minutes plus tard grâce à une superbe frappe à l'entrée de la surface du milieu de Manchester City, Rodri. 5 minutes après le retour des vestiaires, les Espagnols vont prendre les devants. Magnifique centre du jeune Lamine Yamal qui va trouver la tête de Fabián Ruiz au second poteau. Fabián Ruiz qui, mine de rien, connaît un tournoi assez exceptionnel, même s'il passe un peu sous les radars comparé à certains de ses coéquipiers espagnols. Il en est maintenant à 2 buts et une passe décisive en 3 matchs, et il joue parfaitement dans un rôle d'équilibreur au sein de ce milieu de terrain, avec Rodri qui est un peu plus défensif et Pedri un peu plus offensif. Bref, après que l'Espagne ait pris les devants, la Géorgie n'a eu d'autre choix que d'être plus audacieuse à l'offensive, ce qui laissera d'importants trous dans leur défensive. Nico Williams va effectuer un brillant numéro de soliste en contre-attaque avant de conclure d'un tir dans le haut du filet. Puis c'est le remplaçant Daniel Olmo qui va venir faire 4-1 avec quelques minutes à faire au match. L'Espagne progresse donc vers les quarts de finale. J'étais dans la zone de Leipzig, dans la fan zone plutôt de Leipzig, pour regarder ce match et les partisans espagnols sont instantanément allés applaudir les partisans géorgiens au coup de sifflet final. C'était un geste de très grande classe de la part des Espagnols envers une nation qui a livré franchement une superbe performance au cours du premier tournoi majeur de leur histoire. Les Géorgiens ont également été accueillis comme des héros lorsqu'ils sont revenus à la maison, avec des dizaines de milliers de personnes qui les attendaient dans les rues de Tbilissi, la capitale, pour les féliciter. C'est vraiment de très belles images à voir si vous êtes capable de les trouver. On fait donc une courte pause publicitaire et au retour, on parle des 4 dernières confrontations de ces huitièmes de finale. À tout de suite! Rebienvenue à ce 4e épisode d'Au cœur de l'Euro. Avant la pause, on a débriefé les 4 premiers matchs de ces huitièmes de finale. Attardons-nous donc aux 4 derniers avant de se lancer dans de petites prédictions pour les quarts de finale. Le duel France-Belgique était sur papier très alléchant, mais si l'on tient compte de la forme des deux équipes depuis le début de l'Euro, il y avait de quoi être sceptique par rapport à la qualité du jeu qu'on retrouverait dans ce match. On se souvient que les deux pays ont terminé 2e de leur groupe respectif, et ce même s'ils étaient grandement attendus de leur part de remporter ceux-ci. Ils n'ont aussi marqué que 2 buts chacun, donc pas très rassurant pour ces équipes qui pourtant débordent de talent offensif. Le sélectionneur français Didier Deschamps a gardé en partie le même 11 que lors des matchs précédents, à quelques exceptions près. Le duo parisien de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé laissait sa place au buteur Marcus Thuram et au milieu Aurélien Tchouaméni. Antoine Griezmann, qui agissait comme milieu offensif depuis le début du tournoi, était pour sa part placé sur l'aile droite pour ce match. Du côté belge, Domenico Tedesco a délaissé le système à un seul attaquant qu'il avait utilisé en gros pour passer plutôt à 2 attaquants en intégrant le très explosif Loïs Openda aux côtés du capitaine Romelu Lukaku. Une stratégie pour la moins intéressante puisqu'elle voyait le meneur de jeu de cette équipe, Kevin De Bruyne, jouer beaucoup plus bas sur le terrain. On était donc en droit de s'attendre à un match dont les occasions de marquer étaient plutôt limitées et c'est exactement ce qu'on a eu. Du côté belge, les percées et la vision de jeu de De Bruyne auront grandement manqué à l'offensive des Diables Rouges, lui qui, comme on vient de dire, jouait plus bas sur le terrain. Du côté français, Marcus Thuram en pointe a à nouveau déçu et a dû être remplacé à la 65e minute par Randal Kolo Muani. C'est d'ailleurs de lui que va provenir le premier et seul but du match. Belle projection vers l'avant de N'Golo Kanté. Après une petite séquence de passes, il va donner un beau ballon vers Kolo Muani dans la surface. Ce dernier va se retourner et tirer vers le but belge, et sa frappe sera malheureusement redirigée dans son propre but par le défenseur vétéran belge Yann Vertonghen, et c'est ainsi que va se terminer le match. La France va donc plier, mais pas briser, et trouve un moyen d'accéder au quart de finale. Donc, en 4 matchs au cours de 7 euros, les Bleus n'ont trouvé le fond du filet qu'à 3 reprises, et ces 3 buts-là, c'était 2 buts contre son camp et un penalty. En revanche, le point le plus positif de cette campagne, qui peut sembler en dessous des attentes, ben c'est la défensive française. Cette charnière composée de Théo Hernandez à gauche, Jules Koundé à droite, ainsi que Dayot Upamecano et William Saliba au centre, donne énormément de satisfaction. En rajoutant à cela le toujours excellent Mike Maignan dans les filets, le secteur défensif de la France s'est levé lorsque l'équipe en a eu besoin. Le défenseur d'Arsenal, William Saliba, a particulièrement impressionné depuis le début du tournoi. Lui qui performe déjà extrêmement bien en Ligue anglaise, mais qui n'avait pas vraiment encore gagné sa place en équipe de France avant le tournoi. Et bien, dernier match, il a complètement mis l'imposant Romelu Lukaku dans sa poche. C'est donc très prometteur pour le reste de la compétition, tout ça, de son côté. Et évidemment, comme l'a dit le proverbe, ben c'est la défense qui fait gagner des championnats. On va donc voir jusqu'où la France peut se rendre avec ce très bas taux de but marqué, mais cette défense vraiment de fer. Quant à la Belgique, leur fameuse génération en or, qui incluait entre autres les Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard, pour en nommer quelques-uns, semble avoir raté sa dernière chance de remporter un trophée majeur. Sixième match de ses huitièmes de finale, une confrontation assez peu usuelle entre le Portugal et la Slovénie. La Slovénie qui accédait à un tour à élimination directe pour la première fois de son histoire face à l'une des plus grandes nations de foot de l'histoire. Ce match-là ne peut finir que d'une seule manière, non? Eh bien, disons que la Slovénie a passé bien près de changer la narrative. Malgré une performance assez dominante des Portugais, ils n'ont pas été en mesure de trouver la réponse à la défense slovène en 120 minutes de jeu. Deux joueurs aux performances très contrastées vont se démarquer pour le Portugal lors de ce match. Le premier, et malheureusement pas pour les bonnes raisons, ben c'est nul autre que Cristiano Ronaldo. Âgé maintenant de 39 ans, Ronaldo n'a aucunement besoin d'introduction. Il est sans l'ombre d'un doute l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport et le plus grand joueur portugais de l'histoire. Par contre, sa performance face à la Slovénie en a inquiété plus qu'un. Son obsession pour marquer des buts aura définitivement plus nuit à son équipe que contribué au succès de celle-ci. Cela n'aurait pu être plus évident que lors des nombreux coups francs qu'il insistait à tirer, même si certains d'entre eux auraient été préférables pour un gaucher ou tout simplement pour envoyer un centre plutôt qu'un tir au but. À chaque tentative, CR7 se craquait comme si c'était le dernier tir qu'il allait prendre de sa carrière, et à chaque raté, il semblait se frustrer de plus en plus. La goutte d'eau qui fit déborder le vase, ben c'est le pénalty remporté par le Portugal en prolongation. Ronaldo s'élance, mais voit son tir magnifiquement stoppé par le gardien slovène Jan Oblak. Le Portugais n'a pu retenir ses larmes après ce raté, des images assez tristes à voir. Mais heureusement pour lui, il a converti son pénalty lors de la séance de tir au but. Quelque chose qui remettra sans doute un sourire dans le visage de Ronaldo, ben c'est la performance de l'autre joueur qui s'est démarqué dans son équipe, le gardien Diogo Costa. Non seulement il a effectué plusieurs arrêts héroïques, notamment face à l'attaquant slovène Benjamin Šeško lors d'un 1 contre 1, mais il a également arrêté les 3 pénalties auxquels il a fait face lors de la séance de tir au but. Résultat, le Portugal se qualifie malgré tout pour les quarts de finale, suite à un match qui se termine 0-0, mais 3-0 en leur faveur, au tir au but. Avant-dernier affrontement de ces huitièmes de finale, Pays-Bas contre Roumanie. La Roumanie qui avait surpris tout le monde en remportant le groupe E avec un total de 4 points, au même titre que les 3 autres équipes du groupe, mais avec un meilleur différentiel de buts. Comme récompense, elle se retrouvait face à l'un des meilleurs troisièmes de groupe, une tâche qui aurait dû en temps normal les avantager, sauf dans un monde où les Pays-Bas terminent troisième du groupe D. Malheureusement pour cette brave équipe, leur parcours s'est terminé face à une sélection néerlandaise tout simplement trop forte et qui semble vraisemblablement monter en puissance dans ce tournoi. Le premier but est provenu de l'ailier Cody Gakpo, qui va couper sur son pied droit et battre Florin Nita à son premier poteau. À la mi-temps, l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman va faire sortir son ailier droit Steven Bergwijn pour l'attaquant du Borussia Dortmund, Daniel Malen. Ce dernier va livrer une performance qui va sans doute lui mériter une place dans le 11 de départ en quart de finale, lui qui va inscrire un doublé. Le premier but va venir d'un excellent travail de Memphis Depay et à nouveau Gakpo, qui va remettre en retrait à Malen et qui va compléter dans une cage vide. Finalement, à la 90e minute, le jeune homme de 24 ans va réaliser une superbe course solo à partir du milieu du terrain et va déjouer un défenseur avant de battre Florian Nita à contre-pied. Marque finale, 3-0 Pays-Bas, direction les quarts de finale pour eux aussi. Et finalement, le dernier de ces huitièmes de finale est celui qui se tenait à Leipzig, l'Autriche contre la Turquie. C'était donc le quatrième et dernier match que la ville de Leipzig accueillait, et ben, comme pour les trois premiers, j'étais dans le stade pour y assister. La première chose que j'ai à dire, c'est que c'était de loin la meilleure ambiance qu'on a eue de toute la compétition au Leipzig Arena. Déjà, on voyait tout de suite qu'il s'agissait d'un match à élimination directe, tout simplement de par la manière dont les partisans réagissaient, mais on a aussi été extrêmement gâtés par deux bases de partisans extrêmement passionnés. Je n'étais pas très familier avec les partisans de l'Autriche, mais ils ont quand même donné tout un spectacle en sautant et en chantant pendant tout le match. La Turquie de son côté, ouf! Pour vrai, quelle base de partisans incroyable! En fait, à chaque fois que l'Autriche se mettait à chanter, les Turcs se mettaient à siffler et huer jusqu'à temps que les Autrichiens se taisent, et là les Turcs enterraient complètement le reste du stade en jouant du tambour, en chantant et en criant. Et ça n'a même pas pris une minute de jeu pour que les décibels dans le stade atteignent des niveaux astronomiques lorsque la Turquie a ouvert le score. C'est le défenseur Meri Demiral qui va tomber sur un ballon libre suite à un corner et qui va faire exploser de joie les partisans turcs. C'est vite devenu le festival des fumigènes derrière le but autrichien, où se trouvaient les partisans turcs, vous l'aurez deviné, avec une armée rouge et blanche qui célébrait. Pour le reste de la première mi-temps, on a assisté à pas mal de pression de la part de l'Autriche, mais rien de suffisant pour trouver le fond du filet. Un joueur par contre qui m'a extrêmement impressionné chez les Turcs, ben c'est le petit Arda Güler. On se rappelle, à seulement 19 ans, ben c'est un joueur qui a signé au Real Madrid l'été passé, mais qui a eu plusieurs problèmes de blessures la saison passée, ce qui a grandement limité son temps de jeu. Par contre, à constater le nombre de chandails turcs floqués avec son nom dans le stade de Leipzig, c'est un jeune homme qui est déjà considéré comme le futur, mais aussi comme le présent du foot turc. Et il a sincèrement livré une prestation qui a fait honneur à sa réputation. Dans un rôle d'attaquant un peu reculé, il tirait les ficelles entre les milieux de terrain et les autres attaquants avec tellement de justesse et de maturité. C'est un joueur dont on va sans doute beaucoup entendre parler dans les prochaines années. Et ben c'est d'ailleurs grâce à sa patte gauche que la Turquie va doubler son avance. Un corner magnifiquement tiré de sa part qui sera trouvé de la tête à nouveau par le défenseur Meri Demiral. Le défenseur central inscrit donc son deuxième du match. Par contre, à peine 5 minutes plus tard, c'est le remplaçant autrichien Mikhail Gregoric qui va ramener le score à 2-1. On fait donc s'attendre à une dernière vingtaine de minutes de jeu extrêmement tendue, et c'est exactement ce qu'on a eu. Les Autrichiens vont appuyer sur l'accélérateur et vont produire attaque après attaque, mais au final, les Turcs vont plier, mais ne vont jamais briser. Leur charnière défensive va être complètement héroïque, spécialement Demiral qui est sans aucun doute le héros du match avec ses deux buts, mais également de par sa prestation défensive, mais aussi le latéral gauche Ferdi Kadıoğlu, qui est un autre joueur qui a définitivement fait augmenter sa valeur au cours de cet Euro 2024. Un dernier joueur décisif pour la Turquie, ce sera leur gardien Mert Günok, qui va sortir définitivement l'arrêt du tournoi sur essentiellement le dernier jeu du match, un superbe plongeon pour sortir la tête de Christophe Baumgartner. Marque finale donc 2-1 Turquie, et ce match-là déjà un classique instantané de cet Euro 2024. Passons donc maintenant à des petites prédictions rapides en vue des quarts de finale. Le premier des quatre matchs est un vrai duel de titans entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est honnêtement un peu dommage de voir ces deux équipes se rencontrer aussitôt dans la compétition, parce qu'avec le niveau de jeu qu'elles nous offrent, elles auraient très bien pu les deux se retrouver en finale. En fait, je vois un peu ce match comme une finale avant la finale. En termes de qualité, ça ne me surprendrait pas que ce soit le meilleur match de l'Euro à date. Ça va être serré, ça pourrait aller en prolongation ou en pénalty, mais je pense que je vois l'Espagne l'emporter dans un match qui ne sera certainement pas à manquer. S'il y a bien un des quatre matchs de quart de finale que vous devez écouter, ce sera bien lui. France-Portugal ensuite, deux équipes qui ont quand même brillé par leur solidité défensive depuis le début du tournoi. Et même si ce sont deux gros effectifs sur papier, je m'attends à pas mal moins d'étincelles que cette Espagne-Allemagne. Je crois qu'un 0-0 ou 1-1 qui sera en prolongation ou un penalty est plutôt envisageable. Je pense que ça se jouera à pas grand-chose, mais je crois que je vois la France passer, mais encore une fois, de vraiment pas beaucoup. De l'autre côté du tableau, on a l'Angleterre contre la Suisse. L'Angleterre, ben, encore décevante, mais qui trouve un moyen de passer au tour suivant malgré tout face à la Slovaquie. Je vois cependant leur parcours arriver à sa fin face à l'une des plus belles équipes de la compétition, la Suisse. Un peu comme le Maroc lors de la Coupe du Monde en 2022, je crois que la Suisse va sortir un autre gros morceau de la compétition et progresser jusqu'en demi-finale. Terminons avec Pays-Bas contre Turquie. La Turquie aura certainement été l'une des équipes les plus excitantes à suivre de cet Euro 2024. Et même si j'aimerais beaucoup les voir accéder au carré d'as, je crois que les Pays-Bas, qui montent tranquillement en puissance, vont avoir le dessus sur eux. Une chose que j'ai à dire face à ces quarts de finale, c'est que ce sera quatre affrontements extrêmement serrés qui pourraient tous se rendre au minimum en temps supplémentaire. C'est donc ainsi que se termine ce quatrième épisode d'Au cœur de l'Euro. Merci encore une fois d'avoir été là, j'espère que vous avez apprécié comme toujours. On se retrouve donc dans quelques jours pour l'avant-dernier épisode déjà, où on reviendra sur ces quatre matchs de quart de finale, et comme aujourd'hui on se mouillera un peu pour la demi-finale et la fameuse finale qui arrive à grands pas le 14 juillet. Ici donc Vincent Gengepi qui vous dit à la prochaine. Ciao!